La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr.
Pensez à covoiturer.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, on discute, on débat, on vous donne la parole au 32-16 dans un instant. Mickaël, traiteur du côté de la Seine-et-Marne, on le connaît bien dès qu'il s'agit des questions d'emploi. D'embauche, il est avec nous pour apporter son point de vue. Victor, qui lui est du côté de la Vendée sans profession. Pourquoi est-ce qu'ils veulent témoigner? Parce qu'on évoque avec Antoine Dierce, avec Jérôme Marty, avec Joël Dagosséry, la réforme de l'assurance chômage telle que la souhaite le gouvernement, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des économies de 3,5 milliards et de durcir les conditions d'indemnisation du chômage pour un certain nombre de personnes, afin de les remettre à l'emploi. Actuellement, il faut 6 mois d'activité salariée dans les derniers 24 mois pour avoir l'allocation chômage. Là, on fera en sorte d'avoir 8 mois sur les 20 derniers mois. Mickaël, bonjour Mickaël.
Bonjour à toute l'équipe.
Mickaël, qu'est-ce que vous en dites, vous, alors?
Non, mais moi, c'est ce que je dis souvent, c'est ma ligne souvent, moi qui ai été dans la restauration avant de passer traiteur, parce que justement, je ne trouvais plus de salariés. Et c'est d'aller plus loin dessus. Moi, je serais même pour interdire à des jeunes qui sont chez papa, maman, compte Pôle emploi. Moi, j'ai eu des cas, des situations où c'est toujours la même chose. Le problème de ces jeunes-là, vous les retrouvez en restauration. Ils viennent toquer chez vous. Bonjour, moi, je veux travailler au black parce que comme j'ai le Pôle emploi, vous comprenez. Oui. Comme ils disent, je suis au chaume dû. Alors, tu sais, j'ai pas envie, j'ai envie de bénéficier encore. Mmh. C'est quelque chose qui devient pervers, en fait. Vous créez un système qui devient pervers. C'est comme Jérôme Marty va sauter au plafond. Les faux arrêts maladie des chauffeurs de bus et qui vont faire VTC après. Les gens, ils peuvent travailler au final. Hein. Mmh. C'est juste qu'en fait, c'est devenu ce qui devait
donc,
être une aide au départ,
arrêter,
a été pervoyé.
Il faut arrêter.
Individualiser que des femmes, par exemple, qui ont des enfants, il faut que ce soit un trait d'union, quoi. Ce n'est pas un mode de vie, ce n'est pas un statut, il y a le statut salarié.
Enfin, c'est le manque de contrôle qui est à déplorer, quoi, Mickaël.
C'est le manque de contrôle et qui est à déplorer. Mais excusez-moi, moi, je prends l'exemple de ma dernière responsable. Elle a été payée 2 200 euros pour tenir le restaurant. Elle sortait de la mission locale sans diplôme, sans rien, toucher 500 euros par mois. On a osé me dire que ce n'était pas assez payé 2 200 euros. Au final, elle a fini au Pôle emploi parce que c'est ce qu'elle voulait. Ouais. Elle touchait 1 750 euros par mois en étant chez papa, maman, logée. Comment voulez-vous qu'elle reprenne le travail? Et tous ces gens-là, ils trouvent toujours du travail quand ils arrivent en fin d'allocation. Comme quoi, c'est qu'ils arrivent à trouver du travail, c'est juste qu'ils veulent aller au bout du système et que le système ne les pousse pas à aller travailler. Donc pour moi, il faudrait arrêter tout ça, que ce soit des aides individualisées. Voilà, j'ai 4 enfants, ma société, la société dans laquelle je travaille a coulé. Je veux une aide le temps que je retrouve du travail et arrêter d'avoir des gens comme à l'époque Kauter qui avait sur votre plateau. Que faire de la plonge ou aller faire des frites au McDo, c'est ingrat. Non, c'est un travail et on touche son salaire à la fin. C'est mieux de travailler que de ne pas travailler. C'est surtout ça qu'on devrait apprendre aux gens.
D'accord, ce que dit Mickaël.
Complètement d'accord. Et moi, j'irais même plus loin. En fait, Mickaël, vous m'ouvrez un peu l'esprit et on pourrait presque imaginer qu'il n'y ait pas de durée d'indemnisation garantie, mais que chaque mois, on ait un point avec le conseiller qui dise « Ok, vous êtes vraiment en recherche de travail, donc on va vous indemniser encore ce mois-ci ». Et que ce soit pas aussi large pour tout le monde. Voilà.
Mais non, mais aujourd'hui, vous envoyez tout sur Internet, tout le monde vous déclare que c'est pas ça. Il y en a, ils sont à l'autre bout du monde. J'ai vu un jour un message passer sur un réseau social, une personne qui se plaignait qu'elle avait un compte fermé, mais ça, c'est pas grave. Elle dit oui, je suis en année sabbatique, je touche le Pôle emploi. Non, mais t'es pas en année sabbatique, c'est pas ça une année sabbatique. Ouais. Non, c'est les gens, tout est dévoyé, tout est interdit. De toute façon, moi, je privatiserai tout ça parce que quand c'est privatisé, c'est très bien contrôlé.
Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait un Pôle emploi qui soit extrêmement efficace, puisque en quelque sorte, c'est des aides à la carte que vous définissez, suivant le parcours de la personne, suivant ses difficultés, les difficultés qu'elle a rencontrées, les difficultés qu'elle pourrait rencontrer ensuite et tout. Il faut adapter tout ça, mais ça impose qu'on ait un Pôle emploi effectivement extrêmement efficace. C'est pas le cas aujourd'hui.
Il y a des contradictions chez Pôle emploi eux-mêmes. Je vous donne la dernière fois, j'avais besoin d'un cuisinier, alors j'avais jamais fait ça. Je suis parti chercher des CV sur Pôle emploi, sur France Travail à l'époque, sur Pôle emploi. J'appelle des cuisiniers, et qu'est-ce qu'on me répond au téléphone? On me dit ah non, je suis pas disponible pour tel rendez-vous. Alors moi je rentre dans leur jeu, je leur dis ah bah très bien, je vais appeler Pôle emploi, je leur dis que vous avez retrouvé du travail. Ah non non non, c'est bon, je peux venir. Mais ça c'est des cuisiniers qui travaillent au Black à côté. Et quand j'appelle ça à France Travail pour leur dire le côté employeur, leur dire écoutez, mes CV c'est ça. Elle m'a dit mais justement faites-nous des signalements parce que nous quand nos collègues qui sont côté salariés, ils ont comme retour que ces gens-là ne trouvent pas de travail.
C'est ça. Oui, oui.
Mais Michael, je suis assez d'accord avec votre raisonnement, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait inverser la chose. C'est-à-dire que, au moment où vous tombez au chômage, vous vous retrouvez au chômage, peut-être ne pas toucher beaucoup, voyez? C'est-à-dire que la dégressivité, on inverse la dégressivité. C'est-à-dire ne pas toucher beaucoup tout de suite, au départ. Comme ça, vous êtes incité à peut-être à rebondir plus rapidement. Et puis, si jamais on voit que vous galérez parce que vous êtes âgé ou quoi que ce soit, ben à ce moment-là, on augmente. C'est un raisonnement, hein,
oui,
je me trompe.
Pas, oui.
On augmente peut-être à ce moment-là.
Faites des statistiques sur combien de personnes retrouvent du travail un ou deux mois avant la fin de leur aide.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est au moment de la dégressivité.
Dès que je retrouve du travail, alors les gens sont prêts à revoir leur salaire à la baisse, leur prétention à la baisse, quand ils arrivent en fin d'allocation. Alors que pendant en plein milieu de leur allocation, ils vous disent non, moi je veux 3 000, 4 000. Aujourd'hui, on fait croire aux gens qu'ils peuvent tous gagner 4 000, 5 000 euros, c'est pas possible, c'est pas vrai, faut arrêter un moment.
Merci de ce coup de gueule, Michael. Merci de ce coup de gueule. Merci de vous être exprimé en toute liberté.
Mais c'est pas vrai dans toutes les professions, parce que vous savez bien quelqu'un qui, par exemple, est commercial et qui a 55 ans, qui perd son emploi, pour retrouver un emploi, c'est compliqué, quoi.
Ah, je parle pas de celui qui a 55 ans, c'est surtout ceux qui ont 20-30 ans.
Voilà, ouais, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas...
Alors justement, Mickaël, on va en parler avec Victor. Victor, il a la cinquantaine, il est du côté de la Loire-Atlantique. Bonjour Victor.
Bonjour.
Où précisément en Loire-Atlantique?
Ben, sur Nantes.
Sur Nantes.
Voilà.
Et alors, vous êtes sans emploi aujourd'hui?
Oui, depuis le mois de novembre, oui.
Ah, ça commence à faire. Que pensez-vous de la réforme du gouvernement alors?
Bah écoutez, ce que je pense, c'est que je crois que la personne d'avant a un petit peu tout dit. Je crois qu'ils ont moyen de voir un petit peu les gens qui abusent du système et comme disait, qui retrouvent du boulot vraiment dans les derniers moments. Donc, à un moment donné, je pense que ces organismes devraient avoir un petit peu plus de coronesse et puis sanctionner les personnes qui abusent tout simplement parce que on a un beau pays, comme on dit toujours, la France, c'est un pays où on a pas mal d'aide, où on a tout ce qu'il faut, mais malheureusement, c'est toujours tout le monde qui prend pour le peu de personnes qui abusent. Donc à un moment donné, voilà, c'est aujourd'hui on est dans une situation qui va mal de tous les côtés à cause de toutes ces choses-là, tous ces abus qui ne sont pas sanctionnés et on tape toujours sur les mêmes.
C'est-à-dire sur vous quoi. Enfin, vous avez l'impression que c'est vous qui allez être pénalisé quoi, c'est ça?
Bah bien sûr, tout à fait. Moi je fais les démarches. Bon voilà, moi c'est quand même j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans, comme je disais, j'ai commencé en apprentissage, j'ai toujours travaillé, c'est la première fois que je suis au chômage, et bon, le gouvernement a déjà fait une réforme, et puis apparemment, s'ils en refont une autre, c'est que la première n'a pas été un succès, donc dernièrement, je crois que sur votre chaîne, d'ailleurs, vous aviez une dame du Pôle emploi qui, vous lui demandiez justement la première réforme, ce qu'il en était, et elle disait que c'était pas la solution, et là, voilà, il rattaque sur une autre, donc je pense qu'on a des gouvernants qui sont complètement hors sol et qui tapent toujours sur la minorité.
Mais quel est le frein aujourd'hui pour votre retour à l'emploi, vous, Victor? Parce que vous êtes dans quel secteur d'activité?
Alors moi, je suis dans le transport. Donc moi, voilà, je le dis, j'ai fait une petite bêtise, j'ai eu un petit retrait de permis. Donc voilà, ça m'a coûté cher. Je m'en suis voulu. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment eu du mal au départ.
Ouais, parce qu'on cherche du monde dans le transport, dans le secteur du transport.
Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, j'ai hâte de récupérer mon permis et dès que je l'aurai, voilà, je referai les démarches. J'ai pour habitude d'aller au contact. Je m'inscris pas dans une boîte d'intérim, enfin s'il le faut je le ferai, mais j'ai mon CV, j'ai ma lettre de motivation qui est prête, et dès que j'ai mon permis, je démarche les entreprises autour de chez moi
c'est juste le petit accident de parcours, quoi,
voilà. C'est ça, et le problème c'est que dans notre pays aujourd'hui on sanctionne tout le monde pour le peu de personnes qui abusent. Et c'est tellement dommage parce que voilà, on en vient à avoir les gens qui se mettent dos à dos et c'est voilà, ça va pas aller en s'arrangeant quoi. Et c'est malheureux. Et puis on perd de plus en plus d'acquis à cause de ces choses-là.
Mais
et
pourquoi attendez Victor.
Oui.
Parce que là, en attendant de récupérer votre permis, qu'est-ce qui vous empêche de trouver du taf, du travail pardon.
Disons que sans transport, voilà quoi. Alors j'habite Nantes, c'est un petit village à côté. Et du coup, pour se déplacer, c'est compliqué. Si j'étais dans le centre de Nantes, oui, là, je vous dirais que du travail, j'en trouverais. Ouais. Mais habitant à quelques kilomètres de Nantes, bon, ben c'est compliqué sans transport de pouvoir aller travailler. Vous comprenez. C'est le seul frein, hein, parce que sinon.
Vous le récupérez quand votre permis?
Eh ben, écoutez, justement, ça aussi, pareil. L'administratif aujourd'hui, avant, on avait contact, on allait à la préfecture, on voyait des gens. Aujourd'hui, on fait tout par internet. On vous propose des dates. Vous mettez la date qui correspond pour. Normalement, je devais récupérer mon permis mi-mai. Et puis, ben, on me colle la dernière visite médicale pour me valider le permis début juin. Donc voilà, ça retarde encore.
C'est reparti de 15 jours.
Ouais, 15 jours alors, c'est pas grand-chose, mais voilà, toutes ces petites choses font que notre système était génial, mais devient de pire en pire. Mmh. Et puis, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, quoi. Parce que du travail, comme il y en a beaucoup.
C'est vrai.
Et puis, il faut motiver les gens à aller travailler, mais c'est pas en tapant comme ça sur les gens que voilà qu'on.
Okay.
Je pense qu'ils ont la possibilité de voilà à un moment donné, il faut sanctionner les gens qui abusent et non pas.
Donc, ce que vous demandez, Victor, c'est davantage d'individualisation du dossier. Enfin, quand tu entends que les gens de France Travail aujourd'hui, ils ont combien? Ils gèrent parfois 300, 500, 600 dossiers. Ça va être compliqué de faire un vrai suivi, quoi.
C'est pas possible. Et puis en plus, je connais pas France Travail, mais. On n'imagine pas le nombre de personnes qui travaillent pour l'État et qui sont censées accompagner les gens vers l'emploi, donc de l'éducation nationale à France Travail, et qui ne connaissent pas réellement le monde du travail. Franchement, vous savez pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils sont dans une machine étatique avec des mesures, des lois, un programme scolaire ou là des mesures pour France Travail, mais qui ne connaissent pas réellement le monde du travail. Et moi, je me demande comment tu peux accompagner des gens vers l'emploi, que ce soit de l'école jusqu'à France Travail, sans réellement.
Ils ne sont pas spécialisés par domaine.
Non, je t'assure vraiment.
France Travail. C'est bon pour le pouvoir d'achat, ça.
La
RMC, la roue multicash. Vous pouvez encore vous inscrire. Le tirage au sort, tout à l'heure, vous ferez tourner la roue chez Jérôme Rotten, dans Rotten sans flamme, à partir de 19h30. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 euros. Donc vous envoyez roue, vous avez 5 minutes, pas plus, pour vous inscrire. Vous envoyez roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732-16. Si vous êtes tiré au sort, une main innocente, celle de Jérôme Breton, l'innocence incarnée, fait tourner la roue et vous pourrez gagner jusqu'à 20 000 euros. Merci à Victor d'avoir été avec nous. On va terminer notre discussion en restant du côté de la Loire-Atlantique, toujours à Nantes avec Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Gérante d'entreprise, si vous cherchez un chauffeur, notre ami aura récupéré son permis, vous pourrez peut-être l'embaucher. Mais qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites, vous, du durcissement des conditions d'indemnisation, alors?
Je trouve pas ça normal du tout, du tout. Il se trouve que les gens.
Là, c'est une chef d'entreprise qui le dit, alors.
Oui, parce que, en fait, moi, j'étais anciennement conseillère Pôle emploi il y a une quinzaine d'années, et depuis 15 ans, je suis chef d'entreprise.
D'accord.
Et en fait, ces gens, les gens qui perdent leur emploi par licenciement économique ou par fin de CDD, ils ne l'ont pas choisi. Ils subissent la situation pour la plupart. Il y aura toujours des gens pour profiter du système, parce qu'on a un système très généreux en France. Mais bon, c'est un aspect qui est quand même pas mal d'être assez généreux.
Ouais.
Sauf que le souci, c'est que je pense que le gouvernement se trompe des nids, en fait, par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à vérifier, à faire avant.
Lesquelles?
De s'attaquer aux demandeurs d'emploi. Et ben déjà, de réformer le RSA. Moi, je trouve pas normal qu'un gamin de 25 ans, qui a deux bras, deux jambes, un cerveau, il aille pas travailler. Mmh. Il y a assez de boulot. Je veux dire, on n'occupe pas tous nos jobs de rêve.
Mmh.
Alors vous, peut-être, vous avez des jobs passionnants. La personne qui est à la chaîne, à l'usine, je suis pas sûre qu'elle soit passionnée par son travail, sauf qu'elle n'a pas le choix.
Mmh.
Et je pense que c'est tout à fait anormal de donner autant d'argent à des gens qui ne travaillent pas, à des âges où ils ont de quoi aller travailler. Ils vont très bien. Et ben, je suis désolée, à 25 ans, je vois pas pourquoi on donne de l'argent aux gens.
Ça ne
va pas encourager le travail.
Mais vous avez vu, vous, des abus en tant qu'ex-conseillère à Pôle emploi ou pas?
Des abus?
Oui.
Ah bah un tout petit peu, mais vraiment pas.
Non, mais
beaucoup,
c'est, voilà, c'était marginal ou pas?
Oui, parce qu'on a... c'était tout à fait marginal.
Parce que là, la manière dont on nous présente la chose, c'est de dire que il y a vraiment des gens qui profitent du système. Mais, vous voyez, quand on nous dit 90 000 ou 100 000 personnes à remettre à l'emploi, vous voyez, on a vraiment l'impression que aujourd'hui, il faut vraiment taper du poing sur la table.
Il y a deux choses, Alain. Il y a les vraies fraudes où quelqu'un ment quand il travaille au noir, etc. Et il y a le petit abus où tu t'arranges toujours, tu peux décaler ta reprise d'emploi, etc. Et je pense que sur ces abus-là où les gens calculent bien pour profiter au maximum du Pôle emploi, ça existe, Nathalie. Vous l'avez vu ou pas?
Oui, voilà. Oui, un petit peu, mais vraiment, c'était à la marge, en fait.
Et cet argent, c'est de l'argent qu'on a pris à d'autres salariés. C'est ça qui m'horripile, c'est que si on donnait pas cet argent à ces gens qui n'en ont pas vraiment besoin, on pourrait alléger les cotisations et rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. Et donc, moi, je vois le vase communicant. On se dit, ouais, bon, ils en profitent un petit peu, mais c'est ceux qui travaillent qui payent. Et c'est ça qui m'horripile le plus, moi.
Mais de toute façon, c'est toujours ceux qui travaillent qui payent. Quand on paye nos impôts, c'est nous qui payons. Quand on voit nos charges d'entreprise, c'est nous qui payons. C'est toujours ceux qui travaillent. C'est un peu le gros problème quand même de faire porter toute la société sur uniquement le travail.
Ok. Mmh. Merci d'avoir été avec nous, Nathalie.
Merci
bonne journée à vous.
Excusez-moi,
bonne journée. On va regarder le résultat de notre discussion. Faut-il durcir les conditions d'indemnisation? Oui ou non, oui ou non? Un oui pour Jérôme et Antoine, un non pour Joël. C'est le non, le 52. Mais en même temps, ce qui s'explique, dans un pays où tu es encore à 7% de chômeurs, où tu as beaucoup de travail encore précaire, tu as une espèce
forte,
de peur. Enfin, c'est 52-48.
Ah, mais c'est aussi eux qui nous regardent là, à cette heure-là.
Oui, mais
c'est,
mais non, mais
c'est ça qui vote plus.
Ouais, et puis c'est surtout que les gens pensent que c'est de l'argent magique. Si on redit bien aux gens que c'est l'argent qu'on te prend quand tu bosses et qu'on te rend ou qu'on donne à d'autres, là, t'as plus envie.
Bien, c'est pas de l'argent magique.
Ah, oui. Allez, dans un instant, on va faire un tour en prison. On va, avec un surveillant pénitentiaire, reparler des conditions de détention de Mohamed Amra. Plutôt de la manière dont il continuait de mener cet affic. Enfin, il était en prison comme à la maison. Tout de suite au 32-7.
Carrefour Banque et Assurance.
Quand vous me dites, la carte passe, invincible. Et oui, votre carte de crédit passe standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 euros offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance.
Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque, RCA Sévry, numéro 313-811-515, numéro Orias 07-031-939.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat, témoignages. Vous intervenez au 32-16. Avec Jérôme Marty, avec Antoine Dierce et avec Joël Dagosséry, on va accueillir notre invité pour terminer les grandes gueules.
RMC, l'invité des grandes gueules.
C'est un surveillant pénitentiaire, il est représentant syndical, secrétaire général des Faux Justice, Emmanuel Baudin qui est avec nous. Bonjour Monsieur Baudin.
Bonjour.
On voulait discuter avec vous, et sûrement avec ceux qui nous écoutent, qui vont appeler au 32-16, parce que depuis le début de la semaine quand même, on s'interroge, on en a débattu sur cette fameuse année et demie que Mohamed Amra, qui est devenu l'ennemi public numéro un, a passé à la maison de la santé, à la prison de la santé. La prison de la santé, c'est en plein Paris, et on dit qu'on a sonorisé sa cellule. Et alors, l'année et demie 2022-2023, où on a sonorisé sa cellule, je rappelle, on a appris qu'il y avait eu 9 portables au total qui avaient été saisis, qu'il continuait de gérer son trafic de drogue, qu'il avait même dirigé en vidéo une action contre ses concurrents en conseillant les trajets à ceux qui opéraient en commando, qu'il avait organisé des enlèvements et des séquestrations, qu'il cherchait à acheter des armes de guerre du type même du calibre que ceux qui ont servi malheureusement à tuer vos collègues et à blesser les autres, qu'il se faisait livrer des repas 24 heures sur 24, qu'il avait une chicha à sa disposition et potentiellement qu'il avait même réussi à menacer les familles de gardiens ou quoi que ce soit. Il était sonorisé. En 2024, il passe à l'action, enfin un commando passe à l'action, soit pour le libérer en étant ses complices. Comment se fait-il qu'il a pu faire tout ça en prison pendant un an et demi, monsieur Baudin?
Alors, il a pu faire tout ça en prison parce que malheureusement, on a un certain nombre de dispositifs qui nous permettent de limiter les choses. Mais la loi nous contraint et nous, vous voyez, il faut y accord systématique. Avant, il faut y accord systématique, on n'a plus le droit de les pratiquer. Ensuite, il a pu faire ça surtout parce que l'administration pénitentiaire n'était pas informée de ce qui se disait lors de ces écoutes. Nous, la pénitentiaire, on n'a aucun élément. C'est le juge d'instruction qui a décidé la mise sous...
Mais vous savez que la cellule est sonorisée.
C'est, alors on le sait, non, le surveillant il sait pas. C'est les services pénitentiaires. Il y a quelqu'un qui vient, on fait croire à un problème dans la cellule. Le mec il vient poser son truc. Le chef d'établissement il sait pas pourquoi. On sait pas ce qu'on écoute. Et nous on nous dit rien. Les surveillants ne savent pas que c'est. On dit
mais
pas aux surveillants.
Qui sonorise la cellule?
C'est quelqu'un des services du renseignement pénitentiaire. D'accord. Mais qui ne les surveillants à l'établissement ils le connaissent pas. On fait croire que c'est un.
Mais la direction de l'établissement.
Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi le juge a demandé ça. Et ce n'est pas nous qui écoutons, ce n'est pas nous qui traitons les écoutes, et ce n'est pas nous qui pouvons donc, si on avait... Enfin, c'est grave.
C'est-à-dire
ce qui sort.
Que pour vos collègues qui étaient en charge de Mohamed Amra et qui ont saisi des portables, parce qu'il y a 9 portables qui ont été saisis, ouais. Donc on peut dire que pendant un an et demi, ils ont quand même fait leur travail. Après, on parlera de la chicha mais, et de la livraison de la bouffe 24 heures sur 24. Mais ils ne pouvaient pas savoir précisément à qui ils avaient affaire.
Non, mais si on
la
avait
la dangerosité
su...
de l'individu.
Je vous dis, c'est scandaleux. Moi, j'ai entendu ces informations en rentrant de l'hommage le soir. Je rentrais à Paris. J'ai entendu les informations qui sortaient sur vos chaînes. J'étais abasourdi. J'ai aussitôt appelé le cabinet du ministre en demandant des explications. C'est très grave. Si on avait su ça, on aurait évité le drame. On n'aurait pas fait dommage national. Les collègues seraient en vie.
C'est-à-dire qu'on aurait changé sa catégorie pour le transport. C'est
bien sûr. Il n'aurait jamais été à Évreux. On l'aurait mis dans une prison plus sécuritaire. Il aurait été escorté carte, DPS. Avec il serait sorti avec les équipes régionales d'intervention qui sont le GIGN, pénitentiaire. On aurait mis tout en place. Des gens savaient et ne nous ont pas dit.
Alors, où a été le dysfonctionnement selon vous, alors?
Ah ben, je pense que la police écoute. La police transmet au juge d'instruction. Si le juge d'instruction avait tous ces éléments et qu'il les a pas transmis à l'administration pénitentiaire, je pense qu'il faut qu'il rende des comptes.
Le juge d'instruction en charge du dossier Amra, c'est
tout
ça, notamment sur les tentatives de meurtre, etc.
Tout à fait.
C'est terrible de se dire que ce juge, en ne prévenant pas de la dangerosité d'un détenu, est responsable de la mort de plusieurs agents de l'administration pénitentiaire.
Si c'est avéré. Voilà, moi je suis toujours prudent.
Bien sûr.
Si c'est avéré, oui, vous avez raison.
Je suis abasourdi. Je suis abasourdi et je me demande quel serait l'intérêt de ce juge. Est-ce que c'est idéologique? Est-ce que c'est dans un but particulier de continuer à écouter? Moi, je pense qu'on doit absolument protéger les agents de la pénitentiaire et que rien ne doit passer avant la sécurité des agents de toutes les forces de l'ordre, de la pénitentiaire, etc. Donc là, vraiment, je pense que si c'est avéré, on doit reposer la question de la responsabilité des juges.
Si c'est avéré, on a l'impression que les agents de la pénitentiaire, c'est des objets, quoi. C'est uniquement des objets, et puis on va les utiliser en quelque sorte. On veut pousser les coudes le plus loin possible pour en tirer le plus grand profit sur le plan judiciaire, en se foutant éperdument des risques que l'on fait prendre à la famille.
Ou alors, il y a un autre raisonnement, pardon Joël, c'est de dire d'essayer d'éviter au maximum les fuites. Aussi, oui. Potentiellement, pour éviter qu'il y ait des surveillants qui le sachent et que, ouais. Certains soient tentés de dire à Amra, voilà, garçon, t'es sur écoute.
Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a ce que vous avez dit, essayer d'avoir, on parle beaucoup de drogue, de narcotrafiquants, donc faire tomber un gros réseau, ça peut être bon dans une carrière, mais les fuites, enfin, je veux dire, le passé en escorte 4, le DPS, il y avait les ERIS qui sont le GIGN pénitentiaire, on aurait pu assurer. Enfin, vous savez, moi je suis, chez nous, on dit, il y a Dieu, il y a les juges.
Ah, ça veut dire quoi comme
ça veut dire, vous savez, on a signé en intersyndical, un relevé de décision avec le ministre. Nos collègues on a fait l'hommage national. Avant l'hommage national, avant que nos collègues soient enterrés des obsèques, les deux syndicats majoritaires de la magistrature ont rejeté tout ce qu'on demande, nous, pénitentiaires. Ils refusent les visios, le déploiement des visios. Ils refusent de venir dans les établissements pénitentiaires. Ces gens sont dans un précaré, se protègent, peu importe les risques qu'il faut encourir à la pénitentiaire et aux surveillants, alors qu'on est dans le même bateau.
Donc là, vous demandez aux gardes des Sceaux de savoir précisément ce qui n'a pas fonctionné.
J'ai demandé, moi, au cabinet du ministre, de faire toute la lumière sur qui avait ces éléments, pourquoi ça n'a pas été transmis à l'administration pénitentiaire, et à ce qu'il y ait des responsabilités d'établi, pour nos collègues, pour leurs familles. Vous imaginez, nos collègues sont pas l'inhumation du collègue d'un des. Il y en a, on a encore un collègue qui doit les obsèques sont samedi. D'apprendre ça, on aurait pu éviter ce drame.
Non, mais ce qui est certain, c'est que pourquoi on déplace encore des prisonniers à l'heure de la visio, je veux dire.
Mais comment est-ce que
vous pourquoi on va déplacer? On fait prendre des risques à la population, on fait prendre des risques aux agents judiciaires, on fait prendre des risques aux flics qui les protègent. On a des espèces de cortèges qui traversent Paris à plusieurs reprises.
Excusez-moi, mais moi j'ai vraiment beaucoup de respect pour votre profession, notamment parce que j'ai eu à visiter des personnes en prison. Mais là, j'ai rarement vu ce niveau de détente chez un détenu. La dernière fois vu ça, c'est dans un film de Pablo Escobar où la Colombie l'avait mis en prison pour du fake et l'avait mis en prison avec tous ses lieutenants où tout était aménagé et il pouvait continuer de diriger son trafic depuis la prison. Donc, je suis forcée de croire que le problème ne vient pas que des juges et il y a un tabou parce qu'on ne parle jamais de corruption. Je commence à m'interroger sur comment c'est possible que Deliveroo puisse venir en détente en prison, comment c'est possible qu'il puisse fumer tranquillement en prison et que vous ne soyez que les victimes de l'affaire. J'ai vraiment du mal à le croire. Quand vous allez visiter quelqu'un en prison, il faut voir quand vous êtes un visiteur ou une famille ou quoi, enfin ce qui comment les visiteurs ou les familles peuvent être drastiquement
dites-moi comment madame
drastiquement contrôlés
pas sous un portique où les téléphones portables ne sonnent pas, on ne les fouille pas à corps, on n'a pas le droit de les palper.
Très bien, mais on ressent quand on va visiter en prison, on ressent une certaine autorité et une rigueur.
Heureusement.
On sait qu'on arrive en milieu carcéral. Vous êtes d'accord avec moi? Expliquez-moi comment ce monsieur Amra, lui, sensation d'être en milieu carcéral, apparemment,
ça veut dire que certains de vos collègues ont fermé les yeux, ou ont été corrompus.
Vraiment, je respecte votre profession et je sais que ce n'est pas facile parce que vous vivez
en prison. Mais là, je vais être très clair.
Les juges, là, ça me dépasse.
Sur la corruption, je vais être très clair. Comme partout, il y a des brebis galeuses à la police, dans vos professions, il y a des brebis et on les condamne, on les licencie. Maintenant, si les téléphones portables, ils peuvent rentrer par les familles, parce que vous savez qu'on peut les cacher un peu partout et dans des orifices personnels. Et comment vous faites, vous, à la porte d'entrée? Vous pouvez pas, ça sonne pas. Ensuite, si on n'a pas des brouilleurs efficaces, eh ben le détenu peut téléphoner la nuit, il est tout seul dans sa cellule. Vous n'avez pas un surveillant qui est en train de regarder derrière le ton toute la nuit. D'ailleurs, ce monsieur passait son temps à boucher l'œilleton, il a pris un certain nombre de séries pour ça. Ensuite, vous avez un système de drones maintenant. Ils se font livrer à la fenêtre. Donc on met des brouilleurs en place.
Il y a pas les filets anti-drones.
Non, vous avez des filets pour éviter sur les cours de promenade les projections de l'extérieur, mais vous avez aussi maintenant ce système de drone où le drone vient et se pose devant la fenêtre.
Mais non.
Mais si, je vous le dis. Donc on met.
Mais vous l'avez déjà vu?
Bien sûr. Bien sûr. C'est malheureusement. Donc on déploie des brouilleurs de portables qui, quand ils sont mis correctement, fonctionne très bien, c'est-à-dire que le téléphone, il sert plus à rien. Les brouilleurs de drones, mais ça a un coût. Ça coûte très cher.
Attendez, monsieur Baudin, parce que là, vous avez déjà été témoin de drones qui ont livré à la fenêtre de détenus en prison.
Bien sûr.
Et donc il a juste eu à se servir, à prendre ce qu'on lui avait livré par drone, c'est reparti.
Tout à fait.
Mais comment vous l'avez découvert? Comment vous l'avez su?
Parce qu'on les voit aux caméras, parce que les agents dans les miradors les voient, parce que les collègues, voilà, c'est filmé.
Et alors ensuite, vous intervenez dans la cellule.
Bien sûr qu'on intervient, qu'on va. Mais vous savez, une fois que vous intervenez, parce que souvent, en plus, ce genre de personnage, la journée ne porte pas. Ce monsieur ne devait pas porter les portables sur lui la journée. Ils ont des mules, des victimes en prison, qu'ils menacent.
Mais qu'est-ce qu'ils font livrer par drone là, par exemple?
La nourriture, des téléphones portables, ce genre de choses. Là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut pas dire que on est des passoires. Heureusement, on ne retrouve pas d'armes. Il y a pas d'armes, d'armes létales, d'explosifs. À chaque fois, on a. Mais effectivement, là, il faut nous donner les moyens. Et c'est dans le relevé de décision. Brouilleurs de portables, brouilleurs de drones, des chiens. La drogue. Demain, on veut qu'il y ait plus de drogue en prison. Mettons des chiens qui détectent la drogue à chaque entrée de famille.
Et les menaces ou le chantage que vous pouvez subir. Les menaces sur vos familles ou autres, ça
existe.
Ferme les yeux ou alors on va s'occuper de ta famille ou autre, ça existe.
Oui, il y a des menaces et donc quand on le sait, on déplace le collègue. Et en plus, les collègues, bien souvent, surtout sur Paris ou les régions de Marseille où les loyers sont très chers, ils vivent où? Ils vivent dans les banlieues, dans les quartiers où des fois ils croisent le voisin de porte est un ancien client. Donc on développe des choses, mais ça c'est un état, enfin c'est la réalité des choses.
Ouais.
Donc il y a des choses à faire, mais c'est une volonté politique. Pendant longtemps, on a voulu acheter la police sociale et éviter que ça explose. Donc on a laissé faire un peu. Là, je pense qu'aujourd'hui, dans ce relevé de décision, depuis un petit moment, on commence. Là, le ministre s'engage sur des chiens de détection de drogue, sur les brouilleurs, sur les. Mais tout ça, il faut que ça se mette en place. Et puis après, il faut payer. Parce que tout ça coûte de l'argent.
Eh bien, écoutez, vous restez avec nous, monsieur Bonhomme, parce qu'on a encore des questions à vous poser. Vous représentez FO Pénitentiaire. On aura appris, donc, vous nous l'avez dit, certains détenus sont arrivés à se faire livrer. par drone directement posé sur la fenêtre. Et dans un instant, Ludovic, c'est un de vos collègues, il est du côté du Lot-et-Garonne, et il va nous donner un exemple de collègues effectivement qui ont déjà été menacés et même agressés devant chez eux. À tout de suite avec les grandes gueules.
La nouvelle Suzuki Swift Hybrid, c'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199€ par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid, place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000€. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024, si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Et c'est Emmanuel Baudin, secrétaire général FO Pénitentiaire, FO Justice, pardon, qui est avec nous pour parler de ce qui se passe dans les prisons. On est un peu abasourdi, on continue de discuter là pendant la pause parce qu'on revenait sur tout ce que pouvait faire Mohamed Amra en prison.
C'est glaçant, si tu permets, parce que les témoignages qu'il nous livre, ça a tendance à nous montrer que la prison, loin d'être un lieu qui doit protéger la société, c'est un lieu qui la menace, quoi. C'est ça au fond, c'est que si tu commences à avoir des plaques tournantes qui se font à l'intérieur de la prison, où on commandite des gestes crapuleux, quoi, de l'intérieur, où on menace les familles des agences de la pénitentiaire, etc., etc., la prison, c'est une grenade découpillée, quoi.
C'est donc là où il faut développer ses moyens de brouillard. Enfin, c'est comme les détenus qui peuvent aussi appeler leurs victimes de la prison avec le portable. Ça arrive aussi. Donc il faut développer, mais c'est une volonté, c'est réellement une volonté politique. Il va y avoir des lois suite à ce qui s'est passé qui vont être proposées aux députés. On verra qui les vote. Mais on peut brouiller l'ensemble d'une prison et les détenus ne pourront plus téléphoner. On peut éviter la drogue dans les prisons. Alors il faut s'attendre à ce qu'il va y avoir du remous. Mais si effectivement on veut que...
Ça veut dire quoi y avoir du remous?
Mais parce que pendant des années, certains politiques ont laissé faire parce que ça achetait la paix sociale. Le mec il fumait son coin.
Ça vous arrangeait peut-être aussi, vous, ça maintenait un certain calme, non?
Non, parce que nous, si on nous donne les moyens, oui, on nous a retiré les fouilles à corps systématique. C'était un moyen d'éviter. Voilà, si on nous donne les moyens de travailler, et on le fait, parce que les agents, vous l'avez dit, on lui a saisi 9 portables. Dès que c'est bien qu'on fait notre travail et qu'on fait le maximum pour éviter. Mais les collègues font avec les moyens qu'ils ont. Et il faut pas oublier aussi qu'on parle de maison d'arrêt. Maison d'arrêt, vous avez vu la surpopulation carcérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les surveillants, ils gèrent seuls à un étage 150 à 180 détenus. Que voulez-vous qu'ils fassent? Si en plus, vous n'avez pas les douches dans les cellules, ils passent leur journée à passer les détenus à la douche.
Et justement, Ludovic va en parler avec nous, surveillant pénitentiaire. On a déjà eu dans les grandes gueules. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
On évoquait aussi le fait que vous, vos collègues, enfin quand je dis vous, les surveillants, soyez menacés. Du coup, ça met une pression en disant si tu fais pas ce qu'on te dit, nos complices savent où est ta femme, où sont tes enfants, c'est où tu habites. Ça existe réellement, Ludovic, ça, oui?
Ben oui. Alors d'abord, je voudrais dire bonjour à Emmanuel que je connais très bien et le sait lui aussi par rapport à tous les communiqués syndicaux qu'on peut voir, des collègues qui se font menacer dans les établissements ou agresser devant chez eux ou à la sortie des établissements.
Vous avez des exemples précis?
Ben, il y a quelques années de ça, alors j'ai pas la date exacte, un ancien collègue de Fresnes avec qui moi j'ai pu travailler puisque j'ai travaillé à Fresnes, qui s'est fait agresser devant chez lui à coups de poing, coups de barre de fer certainement, et a eu des jours d'ITT derrière. Et ça par des anciens détenus ou des complices de détenus qui téléphonent en disant voilà à quoi ils ressemblent, parce que ben, avec les téléphones portables, comme le dit Emmanuel, c'est qu'aujourd'hui, en fonction des établissements, on peut être pris en photo et mis sur des réseaux sociaux.
Ludovic, moi j'ai une question, c'est que si j'ai bien compris, les transferts ou les transfèrements, c'est une nouvelle mission qui a été donnée à l'administration pénitentiaire. Avant, c'était la police qui le faisait, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, de mémoire, moi je suis rentré en 2010, ça doit être depuis 2012 ou 2013, Emmanuel me corrigera si je me trompe, que l'administration pénitentiaire a récupéré ça.
Et deuxième sujet, c'est le refus des magistrats de voir les détenus en visio. Si j'ai bien compris, on pourrait éviter beaucoup de risques en évitant des transferts vers les palais de justice, en ayant des salles de visio dans les établissements pénitentiaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement faisable d'avoir ces salles de visio pour les détenus dans chaque prison?
Alors, dans beaucoup d'établissements, et le mien actuellement, la salle de visioconférence existe.
Elle existe.
Mais maintenant, on s'en sert très peu parce que les magistrats veulent voir les détenus.
C'est un refus de magistrat.
Voilà, moi j'ai un exemple concret de collègues qui l'ont fait, c'est sortir un détenu à 5h du matin d'un établissement sur la région bordelaise pour l'emmener à Limoges pour être présenté à 9h à un magistrat, où le magistrat lui dit, non mais le magistrat dit voilà, il y a une nouvelle partie civile dans votre affaire, elle vous réclame 1500€, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Le détenu dit oui, et hop on repart, 5 minutes ça a duré, 6 heures de transport.
tout ça, ça doit être fait en visio, quoi. On travaille tous en visio.
C'est pas possible. Et Ludovic, est-ce que actuellement, alors, il y a une sorte de moratoire sur les transferts, en attendant que on statue sur ces histoires de visio, ou est-ce que les transferts continuent?
Ah non, mais là, on a bloqué pendant 3 jours les établissements. Et aujourd'hui, les transferts ont repris. Les escortes, les transferts médicaux à l'hôpital, les transferts au tribunal ont repris comme si de rien n'était.
Merci Ludovic, merci de votre témoignage, vous aussi. Il y a quelques temps, des magistrats marseillais ont dit, de toute façon, ils ont quasiment dit, la guerre est perdue. C'est-à-dire, ils sont...
Oui, on se souvient de ça. Oui.
Ils ont plus d'armes, ils ont plus d'argent... Et pour le moment, on n'est pas au niveau. Et ça, vous le voyez aussi en prison, avec ces narcotrafics, ou pas, Monsieur Bonin?
Alors, moi, je dirais pas que la guerre est perdue, parce que sinon, on rentre tous chez nous, et puis on attend, et on laisse.
Non, mais c'est un moyen d'alerter,
oui,
de dire
j'entends.
Ça.
Non, mais il y a des moyens, je vous dis, c'est des volontés politiques. Nous, on peut, demain, faire en sorte que quelqu'un en prison ne puisse plus appeler à l'extérieur et puisse plus utiliser un portable, ne puisse plus, donc, gérer tous ces trafics, ne puisse plus se droguer. C'est quand même l'intérêt. Enfin, quand on incarcère, c'est quelqu'un, c'est pour qu'on le soigne et qu'il ressorte meilleur que quand il est rentré. C'est une décision politique, c'est aussi un coût. Est-ce que nos concitoyens sont prêts? Parce que un brouilleur de portable, c'est 1 million d'euros, hein. Donc vous aménagez le nombre d'établissements, ça fait. Mais voilà. Mais après, je pense que oui, aujourd'hui, ces narcotrafiquants et celui-ci en fait partie, ont des moyens disproportionnés. Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup, et donc avec l'argent, on peut faire énormément de choses.
Y compris corrompre certains de vos collègues.
Y compris corrompre des.
Comment
collègues.
Ça se passe d'ailleurs quand vous avez des soupçons sur un collègue? Comment vous faites?
Alors il y a une enquête, il y a une enquête, hein, et les choses sont. Parce que vous savez, hein, ils tombent toujours, hein, parce que le détenu il balance toujours. Ouais. Tous ceux qui sont corrompus tomberont. Quoi, enfin, si les collègues ils le savent. Mettre le doigt dedans, vous êtes sûr.
Vous les prévenez, d'ailleurs.
Mais je leur dis, enfin, on peut.
Parce qu'on dit, il faut aller voir les surveillants pénitentiaires, voilà. Ils sont mal payés. Certains, on leur file un billet, puis sinon.
Il faut qu'ils aillent voir leur hiérarchie, qu'ils en parlent. On peut comprendre qu'un agent soit en difficulté, surtout qu'on les recrute jeunes, mais on peut comprendre qu'ils sont en difficulté, mais qu'ils mettent pas le doigt dedans. Qu'ils aillent voir sa hiérarchie et on trouvera des solutions.
Il y a un problème de recrutement aujourd'hui.
Alors. On a négocié une grande réforme avec le ministre, Force ouvrière. On va passer tous les surveillants en catégorie B, ce qui fait que demain, enfin, à compter du 1er janvier de cette année, un surveillant gagne autant qu'un policier. Même plus, puisqu'à la différence d'un policier, on se fait payer nos heures supplémentaires. Donc aujourd'hui, sur la feuille de paye, un surveillant va gagner plus qu'un policier sur la voie publique. Et ça a porté ses fruits, puisqu'on... On n'arrivait pas à recruter depuis 10 ans, on remplissait pas nos schémas d'emploi, les postes donnés par Bercy. L'année dernière, on a rempli notre schéma d'emploi. Et cette année, on a énormément de gens au concours de surveillants. Et j'invite les gens, parce que ce métier a évolué énormément. La reprise des missions des policiers, c'est une aubaine pour nous. Ça permet de voir autre chose. Le renseignement pénitentiaire, c'est quelque chose d'intéressant. Aller, les bracelets électroniques, faire du PSE, c'est important. Enfin voilà, ce métier est très riche, et puis on travaille avec l'humain.
Au plan de l'humain, c'était ma question. J'arrive pas à me figurer quelles sont les relations quotidiennes entre un gardien, un surveillant pénitentiaire et un prisonnier. On arrive à avoir de l'humain. Comment ça se passe?
Oui, bien sûr, on arrive à travailler avec eux, on arrive à échanger avec eux. Alors c'est plus compliqué dans les maisons d'arrêt pour la raison que je vous l'ai dit. Les maisons d'arrêt sont surpeuplées. Mais dans les centres de pénitentiaires, maisons centrales, il y a des détenus qui passent 20 ans et on va travailler avec 20 ans ce détenu. Et puis il y a une partie qui est la réinsertion aussi. Enfin, l'idée c'est que ces gens ils puissent ressortir un jour, parce que la perpétuité, voilà, on sait que ça n'existe plus. Donc oui, il y a de l'humain. On échange, alors toujours avec, enfin une barrière. Faut faire attention. Mais faut évidemment, vous savez, beaucoup de détenus, là, on a levé le mouvement, il n'y a pas eu d'agression, les détenus ont compris, les familles ont compris. Ils ont trouvé ce drame, voilà, ils étaient. Parce que le surveillant, il fait son métier.
Et quand vous entendez dire la prison, c'est le Club Med, c'est pas le Club Med, c'est l'école du crime. Parce que les jeunes qui rentrent en prison, les petits dealers, ils ressortent, ils ont leur réseau, ils sont endurcis et ils sont tombés sous la coupe d'un caïd. Qu'est-ce que vous répondez? Un, Club Med, deux, l'école du crime.
Alors, le Club Med, je vous dis, dans les maisons d'arrêt, alors pour certains, les caïds. Enfin, je vous ai parlé des mules. Moi, je sais qu'il y a des détenus qui sont suicidés parce que c'était des mules de caïds. Ils se sont suicidés en prison parce que leur famille était menacée à l'extérieur. Quand vous êtes 6 dans une cellule où vous avez des matelas au sol, où pour aller uriner la nuit, il faut marcher sur un de vos co-détenus. Non, alors il y a dans les centres de détention qui sont des prisons où les gens sont enfermés individuellement en cellule, c'est différent, en maison centrale. Mais le Club Med dans les maisons d'arrêt, aller à Fresnes, aller visiter Fresnes. Enfin, je vous dis, Fresnes, c'est sale, c'est il y a des rats, c'est la surpopulation carcérale, c'est compliqué pour les personnes détenues. Pour les surveillants, c'est pour ça qu'on défend l'amélioration des conditions de détention des détenus, parce que c'est l'amélioration des conditions de travail des surveillants. Mmh. C'est un tout. Alors bien sûr, on voit, et c'est pour ça qu'il faut aussi supprimer les portables. Quand vous voyez quelqu'un dans sa piscine, je comprends que nos concitoyens se disent comment il fait.
Qui est-ce qui organise la sortie à Versailles, la sortie karting qu'on avait vu il y a quelques... C'est incompréhensible pour les gens.
C'est incompréhensible, mais je vous dis, ça fait partie de la réinsertion.
Oh non.
Je veux dire, est-ce qu'on se dit, ces mecs-là... Enfin moi, j'ai travaillé en maison centrale, j'ai vu des gens qui n'étaient pas sortis depuis 20 temps.
Mais bien sûr.
Quand vous allez les sortir, les mecs, il faut qu'on puisse les emmener un petit peu dehors pour qu'ils voient qu'il y a de la circulation. Moi, je vous dis, hein, ils ont la télé.
Entre l'emmener dehors et l'emmener au karting, il y a une différence, quoi. Pitié, c'est incompréhensible pour le citoyen, quoi, d'emmener un prisonnier au karting. Waouh.
Oui, mais depuis combien de temps il y est, ce prisonnier? Et quelle a été sa conduite jusque-là?
Il a été sanctionné.
Et quelle a été sa conduite jusque-là?
Pas jusqu'au bout.
Mais non, mais.
On a les personnes d'intervention et de probation qui font leur métier, oui. Et qui est aussi, ouais, de préparer la personne à la... Quelqu'un qui a passé 20 ans en prison, sortez du jour au lendemain, c'est compliqué pour lui aussi.
Et l'école du crime, et la prison école du crime alors?
Alors, évidemment qu'il y a des gens qui vont toucher à la drogue pour la première fois en prison, parce qu'il y a de la drogue, parce qu'ils vont faire des rencontres et qu'ils vont s'allier d'amitié, peut-être projeter... on sait que sur les attentats de Paris terroristes, il y a eu des ramifications dans les prisons. C'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut sécuriser les prisons, qu'il faut avoir aussi classifier les prisons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger des voleurs de poules avec ce type de détenus. Il y a des mecs qui vont en prison, ils ont fait une erreur dans leur vie, ça peut arriver. Il y a aussi des gens qui vont en prison alors qu'ils n'ont rien à y faire.
Dans tous les cas, ce que je retiens, ce que vous nous avez dit, c'est que Mohamed Amra, on s'est planté. Ah. Il y a quelque part, alors qu'il était surveillé pendant un an et demi, il y a eu un défaut d'information qui a coûté la vie à vos collègues.
Voilà, je pense qu'on aurait pu encore avoir nos collègues parmi nous, et ça c'est pour ça qu'il nous faut des réponses. Et si tout se vérifie, il va falloir que des gens répondent, parce que c'est inacceptable et qu'on. Que ça,
enfin, est-ce qu'on n'a pas des politiques qui regardent ailleurs aussi? Parce que moi, ça m'évoque l'abandon de ce secteur depuis des années. On sait que l'état des prisons effectivement est déplorable. On l'abandonne, mais le fait aussi qu'on n'ait pas de brouilleur, le fait qu'on n'investisse pas, c'est un tout ça, quoi. J'entendais ce matin sur l'antenne aussi, à propos des brouilleurs, on se disait, bon, il faut 1 million d'euros pour un brouilleur. Et alors? Et les brouilleurs qu'on a, ils sont pas adaptés parce qu'ils sont pas adaptés à la 4G. Mais t'imagines le retour qu'on a, quoi. Et moi, le retard qu'on a.
Je vais aller un tout petit peu plus loin. J'ai le sentiment, en voyant les tristes images où il n'y a pas de riposte par arme à feu, j'ai le sentiment que les agents ne se sont pas sentis soutenus par le politique et n'ont pas osé riposter. Est-ce que vous avez vraiment un soutien et il n'y a pas de crainte à un moment de sortir son arme s'il y a besoin?
Alors, l'enquête le dira, mais je pense que les agents ont riposté. D'accord. Je pense qu'il y a eu une tentative, mais les pauvres.
Et vous n'êtes pas armé en prison?
Alors à l'intérieur de la prison, pas d'armes létales. On a développé le pistolet à impulsion électrique, quelque chose sur lequel il faut se battre depuis des années. On a obtenu Dupont nous a filé les. On a obtenu là, on va développer les chiens d'appui, les chiens d'attaque.
Okay.
C'est des choses qu'on nous refusait. Enfin, il y a une avancée qui commence à se mettre en place. Il y a, je vous dis, dans le relevé de décision, les brouilleurs, les chiens, les. Après, les voitures, après, mais vous l'avez dit, c'est politique. Ouais. Soit le politique accepte de payer et on avance, soit il. Voilà.
Merci, soit c'est votre sécurité qui est en jeu aussi, et la nôtre. Merci d'avoir été avec nous, Emmanuel Baudin, FO pénitentiaire. Passez un bon week-end, on se retrouve lundi entre 9h et midi. Le débat continue sur RMC, RMC Story avec Estelle Denis. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. Nous on va parler du chômage. Travailler 8 mois au lieu de 6 pour pouvoir toucher le chômage. Vous êtes pour, vous êtes contre? Eh bien, vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. À 13h on parlera de cette tribune d'Éric Ciotti et de François-Xavier Bellamy qui souhaite supprimer les droits de donation. Vous savez qu'aujourd'hui on a le droit de donner 100 000 euros tous les 15 ans. Eux ils veulent supprimer les droits de donation, faire ce qu'on veut pour les enfants et les petits-enfants. D'accord, pas d'accord avec eux, ce sera à 13h. Et puis ce chiffre quand même, les jeunes ruraux qui passent plus de 2h30 chaque jour dans les transports, c'est plus d'une demi-heure de plus que les citadins. Est-ce que la vie à la campagne, c'est l'enfer? C'est la question qu'on vous posera à 14h. Et on parlera de Nelson Montfort, 71 ans.
Ah oui, son dernier Roland-Garros ou
ouais, enfin, c'est pas sûr.
Ah.
Alors là, il va faire Roland, il va faire les Jeux. Son contrat est terminé depuis mars dernier. Mais il dit, ouais, j'aimerais quand même bien jouer les progressions, je me sens bien. Donc, est-ce qu'il faut laisser Nelson Montfort ou est-ce qu'il faut laisser la place aux jeunes? Midi et demi.
Place aux jeunes.
Place aux jeunes. Place aux jeunes.
Mais pas du tout. Il faut continuer, Joël, jusqu'au bout.
C'était la plus mauvaise imitation.
La plus mauvaise. Non, non, mais c'est vrai.
Bonne émission avec Estelle et rendez-vous lundi 9h. Oui, voilà.